ma femme, je croirais continuellement sa lui.
Le monde moderne, dans toute sa puissance, en possession d'un capital...
Et j'ai toujours été très frappé par le fait que ce spectacle...
Mon corps, il est comme la cité du soleil, il n'a pas de lieu, mais c'est de lui que sortent et que rayonnent tous les lieux possibles, réels ou utopiques.
Croisement, une émission de Philippe Petit. Aujourd'hui, en compagnie de Han Cheng pour la chaire Histoire intellectuelle de la Chine et de Thomas Reumer pour la chaire Milieu biblique sur un thème commun, les textes sacrés dans un monde mondialisé. Alors avant de parler de ce monde mondialisé, comment ne le serait-il pas ? Parlons d'abord de la France. Vous avez déclaré un jour, Thomas Reumer, et Dieu sait si vos cours obtiennent un certain succès au Collège de France, vous avez déclaré « la France a un problème avec la Bible ». Thomas Reumer.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est un constat qu'on peut faire sans autre, parce que les gens sont un peu étonnés qu'il y ait autant de monde qui vient écouter des cours sur la Bible au Collège de France. Et je crois que c'est un peu le retour du refoulé, à savoir qu'en France, il n'y a pas de tradition séculière d'enseigner les textes bibliques à l'université. À l'université, vous pouvez faire éventuellement de l'hébreu, mais si on dit on fait la Bible, bah c'est tout de suite les églises ou les synagogues. Donc on n'a pas tellement l'habitude de se dire on peut aussi s'intéresser à la Bible hors des églises, hors des institutions religieuses. Et je crois que c'est toujours un peu le cas, à l'exception de Strasbourg peut-être, mais même là, c'est une faculté de théologie, donc c'est quand même de nouveau aussi un peu lié aux églises.
Alors quand j'ai lu cette déclaration, vous savez à qui j'ai pensé, parce que je trouvais que je venais de voir une exposition à la Bibliothèque nationale de France sur Proudhon, et quelle ne fut pas ma surprise de voir la Bible de Proudhon commentée en hébreu, en latin. Alors, peut-être que du côté des socialistes, on a lu la Bible, en tout cas du côté des socialistes utopistes français.
Alors, il y avait tout à fait un mouvement, ce qu'on appelait le socialisme chrétien. Et je crois, en effet, que la Bible a pu influencer un certain nombre, pas seulement de socialistes, mais peut-être plus particulièrement. Alors, est-ce qu'ils l'ont rendu public ou non? Ça, c'est l'autre question.
Han Cheng, alors, est-ce que la France a un problème avec Confucius et la pensée chinoise? Bon, c'est vrai que si on observe la tradition canonique en Chine, on va voir s'il peut y avoir des interférences entre vos deux traditions. Mais enfin, il y a toutefois des différences, puisque le caractère sacré des écritures saintes, des religions monothéistes, dites du livre, n'est pas exactement, par contraste, disons, le reflet des textes canoniques ou classiques de la tradition chinoise. Alors néanmoins, bon, il y a une histoire évidemment de la pensée chinoise en France et pas seulement, que vous avez particulièrement très bien retracée. Mais diriez-vous quelque chose de particulier sur le lien de la France avec la pensée chinoise ?
La France n'a peut-être pas un véritable problème avec Confucius et avec la Chine en général. Elle a plutôt une très longue histoire, à tel point que une histoire qui remonterait, on pourrait dire, à l'époque des Lumières ou même avant, à l'âge classique, 17e, 18e siècle, c'est-à-dire au moment de l'arrivée des missionnaires chrétiens donc en terre chinoise, et notamment avec l'arrivée des jésuites. Qui ont fait énormément justement pour diffuser la culture et les sources textuelles classiques chinoises en Europe. Et donc on pourrait dire que la France a cette longue histoire qui a fait qu'elle est le pays où s'est constituée la discipline sinologique, c'est-à-dire la sinologie, on pourrait dire que c'est une invention française et même qui s'est installée ici au Collège de France, donc du point de vue institutionnel, puisqu'en 1814 s'est créée la première chaire concernant donc la civilisation chinoise, ou plutôt tartare manchou, comme on disait à l'époque. Alors, pour reprendre les propos de Thomas Römer, je dirais que le problème qu'il a diagnostiqué entre la France et la Bible, on pourrait le reporter en fait sur la Chine vis-à-vis de son héritage culturel, et notamment vis-à-vis de son héritage religieux. Actuellement, la Chine est un pays sécularisé, moderne, en tout cas qui se veut moderne, et qui souffre du même syndrome, en fait, du refoulé que la France par rapport justement à une source textuelle comme la Bible.
Par rapport à sa
Bible.
Propre tradition.
Oui, tout à fait, oui. Et actuellement, justement, nous sommes en train d'assister à ce que Thomas Römer, justement, qualifiait de retour du refoulé en Chine. C'est-à-dire que nous avons, après un bon siècle et demi, enfin, de refoulement des diverses traditions, y compris scripturaires et religieuses, nous assistons actuellement justement à ce retour en force.
Alors, retour de Confucius, notamment.
Oui.
Sous l'égide à la fois de la modernisation, du pragmatisme, enfin, d'ailleurs, un terme qui vous agace, hein, quand on n'arrête pas de répéter les Chinois sont pragmatiques, bon, ça c'est particulièrement agaçant. Quoique, peut-être il faudrait d'ailleurs nuancer, dans la mesure où il y a eu des intellectuels chinois très influencé par le pape du pragmatisme, si j'ose dire, John Dewey, mais c'était dans les années 20. Alors, si vous voulez bien, revenons peut-être sur ce regain de confucianisme aujourd'hui en Chine, et après peut-être on fera un parallèle avec le regain des sagesses orientales ici, en Chine d'abord.
Oui, le retour de Confucius, c'est un phénomène qu'on observe depuis à peu près deux décennies, enfin, disons, qui correspond à la sortie du maoïsme, pour aller vite, c'est-à-dire qui donne des premiers signes d'apparition donc dans les années 1980. Donc peu après la chute de la bande des quatre, c'est-à-dire finalement la fin de ce qu'on a appelé la révolution culturelle, la mort de Mao et de quelques autres grands dirigeants, donc du communiste chinois. Et donc c'est un phénomène qui est apparu d'abord en fait sur la périphérie, je dirais, de l'Empire, pour employer une terminologie façon Star Wars, et qui a ensuite gagné donc le cœur de l'Empire, et qui est maintenant instrumentalisé, effectivement, du point de vue idéologique, au service d'une idéologie nationaliste, on pourrait dire, par les dirigeants et le discours officiel. Mais ce retour de Confucius prend également, enfin, d'autres aspects qui sont beaucoup moins officiels, qui seraient beaucoup plus issus de la base, et qu'il est tout à fait intéressant d'observer actuellement.
Ce qui est assez incroyable, c'est que du temps de Max Weber, du côté occidental, on pouvait dire que la Chine n'était pas apte au capitalisme, au développement, à la modernisation, etc. Et aujourd'hui, ce sont...
Retournement complet. Oui, comme quoi, effectivement, enfin, les théories peuvent être très, très grandes et très puissantes, mais elles peuvent également puissamment se retourner. Hein.
Alors, Thomas Römer, puisque notre sujet, ce sont les textes sacrés, on va voir comment ça circule, disons, d'un pays à l'autre. Han Cheng dit souvent que l'autoroute qui relie les États-Unis et la Chine n'est pas simplement en voie de construction, il existe bel et bien. Mais pour ce qui concerne, disons, la postmodernité, enfin, notre monde contemporain, que diriez-vous d'abord, simplement, de l'usage des textes sacrés, de la tradition biblique, sachant que vous les abordez non seulement en exégète, en historien, vous n'avez de cesse de contextualiser, évidemment, les écrits bibliques, mais aussi, vous n'hésitez pas à poser des questions dérangeantes. Dieu est-il cruel? Dieu est-il macho? l'homosexualité dans la Bible, etc. etc. Donc, avant peut-être de décliner, disons, ces particularités, ces qualités ou ces défauts, diriez-vous, comment vous décririez le paysage aujourd'hui dans l'usage que l'on peut faire, justement, des textes bibliques, j'allais dire, bon usage et mauvais usage?
Il y a toutes sortes d'usages, et je pense que ça rejoint un peu ce que disait Han Cheng sur la réception de Confucius. Il y a des usages universitaires, il y a des usages communautaires, il y a des usages individuels, et puis on observe en effet qu'on peut faire tout et n'importe quoi. C'est ce qui m'inquiète souvent, parce que quand on regarde un peu ce qui se passe, notamment aux États-Unis, mais malheureusement plus seulement aux États-Unis, mais de plus en plus en Europe. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre où on m'a révélé que j'étais l'anti Christ, donc au début j'étais un peu choqué, mais après, bon, voilà. Après je me dis c'est quand même pas n'importe qui l'antéchrist, donc, mais pour dire qu'il y a des gens qui supportent mal justement, qu'on contextualise, qu'on dise voilà, on peut pas lire ces textes comme on les a lus il y a 2000-3000 ans, et donc on constate quand même en ce qui concerne la réception du texte biblique, un certain retour au fondamentalisme que je pensais d'abord c'est un peu la chasse gardée de certains milieux aux États-Unis où on pense en effet, la Bible c'est un livre de recettes. Vous l'ouvrez, puis vous avez réponse à toutes sortes de questions d'éthique sexuelle, d'économie, de tout ce que vous voulez. Mais alors, j'observe quand même que ça prend de plus en plus d'importance ici, surtout dans des milieux peut-être d'inspiration plus protestante à l'origine, mais je pense que c'est plus tellement limité à cela. De l'autre côté, quand même, il y a un intérêt, je dirais, aussi du public pour mieux comprendre la naissance de ces textes et de comprendre aussi pourquoi ils ont tellement influencé notre culture dite judéo-chrétienne, et on observe justement que là aussi, il y a de plus en plus d'endroits où on essaie d'enseigner ces textes de manière, je dirais, éclairée, et aussi de les confronter à des questions d'aujourd'hui, puisqu'en effet, ces textes, bah, comme les textes dont parle Han Cheng, ont été écrits à un moment où la société dans laquelle on vivait n'était pas la même qu'aujourd'hui. Il y avait l'esclavage, il n'y avait pas d'égalité homme-femme, pour ne pas parler de démocratie, donc je pense en effet que ces textes ont traversé des périodes très très différentes, et je pense un peu l'enjeu devant lequel on est, c'est comment on les fait parler aujourd'hui, ces textes.
Han Cheng.
En ce qui me concerne, disons que c'est tout à fait important justement de ne pas me cantonner à un domaine d'antiquisant. Hein, c'est-à-dire, bien sûr, les textes que nous étudions peuvent être perçus comme de vieux grimoires qui tombent en lambeaux et qui ne servent plus à grand-chose. Alors que là, je prétends, en dehors justement de tous les chemins tracés par tous les discours officiels, je prétends à ma façon et par mon enseignement, dire que ces textes ont quand même quelque chose à nous communiquer aujourd'hui.
Thomas Römer, est-ce qu'il est normal pour vous aujourd'hui, comme cela l'était au XVIIe et au XVIIIe siècle, du temps des Jésuites, mais aussi de Voltaire, mais aussi de Leibniz, de faire se rencontrer les valeurs confucéennes et les valeurs de la Bible ?
Alors, normal, certainement pas. C'est une grande chance que nous avons ici, dans le cadre du Collège de France, justement, de pouvoir se fréquenter et de pouvoir justement aussi penser un peu à l'interdisciplinarité. Disons, dans le cadre de ma formation, on n'a jamais eu des cours ou des séminaires où justement on a essayé de faire rencontrer la pensée chinoise et la pensée biblique. Donc, je pense c'est peut-être quelque chose à redécouvrir, comme on l'a fait à l'époque de Voltaire. Et d'autant plus qu'il me semble aujourd'hui, on voit quand même que les mêmes gens, mais ce n'est pas peut-être tous les mêmes gens, mais les mêmes gens qui vont écouter la Bible vont peut-être aussi écouter la sagesse orientale ou Confucius. Et il y a des gens qui sont en quête de quelque chose, n'est-ce pas ? Donc, il y a
ça,
plus.
Je pense,
on n'a pas fait de statistiques, mais je suis convaincu parce qu'il y a certains de mes auditeurs qui me parlent aussi des magnifiques cours de Han Cheng. Donc, je me dis, il y a là des gens qui vont partout, disons. Au moins, ils vont dans ces deux contextes-là. Et je pense, en effet, ça reflète tout à fait une situation où les gens cherchent quelque chose. quelque chose. Et d'ailleurs, ce qui m'avait frappé lors de mon récent voyage en Chine, j'ai vu aussi que, même dans le cadre universitaire, les gens s'intéressent à la Bible. Ce qui n'était pas trop le cas, me semble-t-il, il y a une vingtaine d'années.
Ah
tout
oui,
un coup, on reçoit
pas.
Aussi des... tout un coup, justement, on reçoit des invitations. Vous voulez pas une fois venir nous parler, justement, la Bible de manière universitaire, etc. Donc, je pense que c'est pas seulement... On importe pas simplement, mais on exporte peut-être aussi, d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment... On joue un peu là, déjà dans la globalisation.
Alors, dans la globalisation, mais est-ce que vous jouez pas sur une corde raide, sachant que le risque, ça pourrait être un peu le risque des sagesses à la carte, hein, un peu de Bible, un peu de pensée chinoise, un peu de pensée de religion indienne, etc., etc. Han Cheng.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas.
Oui, enfin,
dans la mesure où vous défendez la notion de culture hybride. Alors peut-être on peut s'expliquer là-dessus, parce que ça a un sens dans un monde mondialisé.
Oui, alors je ne sais pas s'il ne faudrait pas introduire une distinction entre globalisation et mondialisation. Moi, je préfère le terme mondialisation plutôt que globalisation. Disons que vous avez parlé tout à l'heure de Voltaire et Leibniz, de leur intérêt pour justement ces sources apportées par les jésuites venus de Chine. Moi, disons qu'il y a une dimension transnationale qui me tient particulièrement à cœur, et là justement en fait ce que nous faisons avec Thomas Römer prend du relief dans cette perspective, c'est la perspective européenne, parce que je suis une européenne convaincue, et donc le fait que là enfin nous sommes alors à la fois sur les domaines bibliques chinois, Thomas Römer vient d'une formation allemande, moi je viens de l'école de la République française. Bon, tout ça, je trouve que ça donne quelque chose de tout à fait enrichissant. Et je crois que, justement, en fait, nous sommes tous les deux aux prises avec des phénomènes successifs de mondialisation. Là, nous sommes dans une mondialisation moderne, contemporaine, mais en fait, nous sommes tous les deux sur des sources textuelles qui ont opéré, justement, de manière sinon universaliste, au moins avec une visée quand même, non pas restreinte forcément à une communauté, mais qui ont réussi à traverser les cultures.
Thomas Römer.
Ni Han Cheng ni moi, je pense, on se voit dans un rôle de missionnaire. On n'a pas notre souci, c'est pas de montrer que Confucius est meilleur ou que la Bible c'est quand même le nec plus ultra. Donc l'idée c'est quand même plutôt qu'on montre aux gens ce que c'est comme texte, donc qu'on leur explique. Et puis je pense ces contacts, si on regarde même l'origine de ces textes, le judaïsme, il n'est pas né de lui-même. Le judaïsme n'est pas toutes sortes d'influences babyloniennes, assyriennes, perses et d'autres. Donc les religions en tant que telles, c'est déjà quelque chose d'hybride. Donc de se dire, voilà, pourquoi mettre en contact les pensées les unes avec les autres, je pense que c'est toujours fait quand on regarde l'histoire des religions. Donc il n'y a pas de religion pure qui pourrait être contaminée ou qui pourrait être mise en danger par une autre, bien qu'il y a des gens qui le pensent, justement, parce qu'ils ont une lecture très fondamentaliste de ces textes. Mais quand on regarde un peu comment ça se passe, et je ne sais pas comment c'est pour la Chine, mais je dirais pour, en ce qui concerne mon domaine, c'est clair que sans les influences extérieures, il n'y aurait jamais eu de judaïsme, ça c'est très clair.
Alors, il n'y a pas de religion pure, Han Cheng, mais revenons quand même sur cette question des usages, parce que c'est important.
Il n'y a pas de culture pure non plus.
Sur les usages, il y a quand même quelque chose, je crois, qui différencie vos domaines d'études. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des équivalents, par exemple, lorsque vous citez un récent succès en Chine de Yu Dan, ce que j'ai retenu des entretiens de Confucius, on a l'impression qu'on a affaire à une experte en communication qui a fait des entretiens, disons, à l'un des best-sellers de la Chine. Alors, je sais bien qu'il existe des digests de la Bible, Thomas Römer, et qu'il existe des usages politiques très, très, très référencés également de la Bible dans différents pays, mais est-ce que ce sont les mêmes usages ? Est-ce que ça obéit, disons, aux mêmes lois, aux mêmes conséquences aussi politiques.
Honnêtement, je ne crois pas, parce que là, je pense que c'est là précisément qu'intervient notre méthode d'historien, je pense. Parce que là, dire que finalement, oui, enfin, les configurations sont les mêmes ou sont comparables, c'est... passer par-dessus justement en fait tout le fameux travail de contextualisation dont parlait Thomas Römer tout à l'heure, et d'autre part c'est un petit peu justement brouiller les pistes et dire que finalement bon voilà enfin les religions dans tous les pays du monde obéissent aux mêmes enjeux, etc. Enfin là je crois que le travail de contextualisation et de mise en perspective historique est absolument essentiel. Et là, bien sûr, on s'aperçoit quand même assez rapidement que les configurations ne sont pas les mêmes.
Thomas Römer. Alors pour vous, peut-être c'est le droit aussi qui diffère, hein, quand même, parce que le droit romain, ça tombe pas du ciel.
Tout à fait. Non, bien sûr, bien sûr. Évidemment, c'est de nouveau une question à quelle époque historique on se situe. Il y a plein d'exemples où on peut montrer où, en effet, les États dits chrétiens se sont inspirés plus ou moins directement de la Bible. Encore, je travaille un peu ça. Encore le code napoléonien sur la condamnation de l'homosexualité, c'est en effet encore référé à l'histoire biblique de Sodome et Gomorre. Donc, il y a eu ces usages qui aujourd'hui, heureusement, sont un peu moins fréquents, mais cette confusion entre une utilisation, je dirais, d'identité nationale et une utilisation, je dirais, plus édification spirituelle personnelle, je pense, elle est toujours là. Évidemment, je pense qu'il y a le statut des textes est différent. Le statut des textes est clairement différent. J'ai affaire à des textes qui ont donné naissance à des religions dites monothéistes, judaïsme, christianisme et de manière dérivée aussi l'islam, alors que Anne s'intéresse quand même à des textes qui ont influencé autrement justement la pensée philosophique de la Chine. Donc je pense là-dessus, on ne peut pas dire qu'on joue exactement au même niveau. Encore que même à l'intérieur des traditions, il faut peut-être distinguer, le judaïsme, jusqu'à 1948, n'a jamais été une religion au service d'un État. Contrairement au christianisme. Donc là-dedans, même dans le monde biblique, il y a des phénomènes très très différents. Et donc je pense que c'est très difficile de parler d'une manière globale. Mais il est vrai que le christianisme a quand même très souvent trouvé ses sources d'inspiration dans la Bible. Et puis en Allemagne jusqu'à aujourd'hui, c'est un pays très protestant, même si la moitié des gens sont catholiques, mais la pensée est protestante. Et puis il arrive fréquemment que tel ou tel ministre cite un verset biblique, justement, ce qui ici sera un petit scandale probablement, mais qui en Allemagne passe très très bien. Donc je pense là aussi encore des différences.
Han Cheng, néanmoins, lorsqu'on parle de texte sacré, on essaye de trouver un certain nombre de convergences. Là, nous avons évoqué à l'instant des différences sur les conséquences politiques, notamment, voire juridiques. Si on considère l'esprit du juste et ce qu'on entend par le juste, disons, dans la Bible, dans la mesure où, lorsque les civilisations se sont rencontrées, alors c'est vrai que c'était surtout le point de vue européen, c'était pas le point de vue ni chinois ni asiatique, certainement, on était obsédé par l'idée de trouver une raison universelle, quoi. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Alors, mais même quelqu'un de plus récent employait une expression que j'apprécie particulièrement. Benjamin parlait du fond commun de l'humanité. Le fond commun de l'humanité. Alors, cet esprit du juste que vous trouvez chez Confucius et que l'on trouve dans la Bible, diriez-vous, l'un et l'autre, et là vous allez vous répondre, qu'ils participent de ce fond commun de l'humanité?
Oui, alors là, je crois que quand on parle de fond, on parle de convictions fondamentales. Et là, moi, je dois dire que je suis tout à fait dans cette perspective que vous avez citée, là, de Walter Benjamin. Effectivement, moi, je crois, hein, c'est mon credo, je crois en ce fond commun de l'humanité. C'est pour ça que, en tant qu'historienne, j'ai le souci de contextualiser et donc de ne pas tout mélanger, mais en tant qu'être humain, je crois justement à ce fond commun. Mais alors évidemment, il faut distinguer les niveaux. Alors après, quand on parle de culture ou de civilisation au pluriel, là, c'est là qu'il faut vraiment faire très attention justement à ne pas tout mélanger. Alors je pense effectivement que c'est quand même pas tout à fait un hasard si les Lumières européennes ont d'une certaine manière rencontré donc une certaine lignée des traditions chinoises, c'est-à-dire donc cette lignée, disons, on pourrait dire officielle, comment dire, la lignée de l'élite confucéenne, ils l'ont rencontrée parce que ils ont retrouvé justement ce même souci d'équité. Envers autrui, de cette manière, comment dire, d'établir des relations humaines à l'intérieur de la communauté humaine. Là, il y a eu une sorte de rencontre tout à fait spontanée et immédiate qui n'a pas été véritablement forcée.
Je pense, en effet, quand on regarde un peu les différents textes fondateurs, on se rend compte quand même qu'il y a quelque chose qui est comparable, sans qu'on mélange tout. Ce qu'on appelle souvent l'approche de la sagesse, des textes de sagesse, que ce soit les proverbes bibliques ou des textes qu'on trouve aussi dans d'autres cultures. Il y a quand même, je dirais, dans toutes les religions, me semble-t-il, il y a toujours deux aspects. Il y a l'aspect un peu identitaire, on dit, voilà, nous, on sait comment ça se passe. Et puis, il y a un aspect très universel où, en effet, on a la quête d'une justice entre les hommes, on cherche les moyens qui permettent, en effet, une vie en commun qui soit le plus juste possible. Et là, je pense, les jésuites l'avaient déjà fait. On peut très bien comparer des textes de Confucius avec des textes dites sagesse biblique. Et évidemment, sans dire l'un dépend de l'autre, c'est pas du tout l'idée, mais on trouvera, je suis sûr, et ça a été fait déjà en partie, on trouvera quand même des approches qui sont, à mon avis, comparables. Notamment cette idée, justement, si tu veux vivre ta vie, il faut aussi que l'autre puisse vivre la sienne et qu'il y a quand même un peu un souci aussi, je dirais, d'égalité au niveau de la société dans laquelle on vit. Donc je pense en effet que c'est quelque chose qui dépasse le cadre d'un système de pensée ou d'une religion et qu'on s'approche là de quelque chose d'universel.
Et en ce qui concerne la langue, sur quoi, enfin, quelles sont vos grandes appréhensions des différences qui peuvent les marquer, je veux dire, dans leur manière d'exposer la pensée entre vous?
Disons que là, je crois qu'il faudrait s'exprimer déjà au pluriel, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Thomas Römer, parce qu'il il maîtrise les langues de la Bible. En ce qui concerne les textes chinois auxquels je m'intéresse, et là, je dois préciser que je ne représente pas la Chine en général, et même pas la culture chinoise ou le... la philosophie chinoise ou la pensée chinoise en général, les textes sur lesquels je travaille se rattachent essentiellement à la tradition dite confucéenne. Alors le mot confucianisme est lui-même très problématique, je vous passe les détails,
on n'est pas là pour ça. Quand même au passage, parce que tout le monde n'a
les
pas
les... Les dates de Confucius, oui, mais après, oui, Confucius, oui, les dates conventionnelles, c'est 551-479, donc avant Jésus. Ben oui, forcément.
C'est comme par hasard le moment où la Torah se constitue.
C'est pour ça que je vous demandais.
Oui. Mais alors après, savoir si le confucianisme a quelque chose à voir avec Confucius, ça c'est encore une autre histoire. Mais enfin bon, disons que en ce qui concerne donc les textes sur lesquels je travaille, là justement, il y a peut-être un trait éventuellement spécifique par rapport justement à ce qu'on observe dans les civilisations de l'Antiquité, enfin autour du bassin méditerranéen, c'est que là, il y a quelque chose qui est relativement monoglossique, hein, c'est-à-dire donc que finalement l'expérience de la polyglossie, le fait de s'exprimer dans plusieurs langues, par exemple comme c'est le cas dans le monde romain, enfin où l'élite pouvait s'exprimer aussi en grec, etc. Bon, ça c'est quelque chose qu'on observe beaucoup moins en Chine. Hein, c'est-à-dire que assez rapidement, on a en fait un univers culturel qui est quand même relativement, je dis bien relativement, parce que oui, qui est relativement homogène, avec une écriture qui a probablement été un vecteur en fait de continuité hein, de culturelle dans la mesure où là aussi tout est relatif, mais enfin on peut constater une relative stabilité de la forme d'écriture depuis disons le 2 siècles avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui c'est une écriture qui a ensuite été utilisée dans d'autres aires culturelles comme c'est bien connu. Elle a été empruntée par la culture japonaise, coréenne, vietnamienne, etc. Et c'est une culture qui est restée l'écriture et la langue des élites de toute l'Asie du Sud-Est, de l'Asie de l'Est, pardon, pratiquement jusqu'à l'ère moderne. Hein. Là, je rappelle toujours que, par exemple, les intellectuels vietnamiens ont continué à utiliser cette langue classique chinoise et cette écriture chinoise encore sous la colonisation française. Hein. Donc voilà. Enfin, là, nous avons quelque chose qui est relativement homogène et stable par rapport justement à ce qu'on observe dans le monde européen. Hein, et c'est ça qui explique aussi mon attachement pour l'Europe, c'est que là, nous sommes presque d'emblée, en fait, dans une configuration polyglossique.
Thomas Romer.
Justement, là, je pense qu'il y a une différence très intéressante, parce qu'au moment où commence l'histoire de la Bible, et on la met par écrit en hébreu, alors qu'à ce moment-là, il n'y a presque plus personne qui parle hébreu. Les gens parlent l'araméen à ce moment-là. Donc là, il y a déjà, en effet, un autre rapport. Donc l'hébreu devient d'emblée une sorte de langue sacrée qui est connue, sue par une minorité des gens qui ensuite ont besoin justement de les traduire d'abord en araméen. Mais ensuite, et je pense le grand bouleversement, c'est quand on passe de l'hébreu au grec. Parce qu'en effet, là, on est dans 2 systèmes de langues différents, aussi 2 systèmes justement de voir le monde différent. Et on observe en effet que le passage de l'hébreu au grec, et puis du grec au latin, est en effet aussi, je dirais, même un changement de concept. Les langues sémitiques traditionnelles, elles ne connaissent pas la même manière de gérer le temps. Il n'y a pas des déclinaisons, des conjugaisons telles que nous le connaissons. Il n'y a pas un passé, un présent. Donc, on insiste plutôt sur des actions qui se suivent ou sur des actions ponctuelles. Et donc, tout ça, mettre dans une langue qui, en effet, est obsédée par la chronologie, c'est aussi déjà un changement très important. Et donc la Bible, en fait, est arrivée en Europe via le grec et surtout via le latin, mais qui ne correspond pas toujours, je dirais, à la mentalité sémitique en ce qui concerne l'Ancien Testament. Bon, je pense que le même problème se pose aujourd'hui quand il faut traduire Confucius en français ou dans les langues européennes. Donc c'est certainement aussi un enjeu qui n'est pas si facile que ça, j'imagine.
Anne-Cheng.
Oui, il y a effectivement un paradoxe qu'on a beaucoup de mal à faire passer une perspective qui privilégie beaucoup justement l'essentialisme. On aime beaucoup justement parler en termes de bloc, en termes de choc des civilisations, dans la version la plus violente de Huntington, ou bien dans une version plus lisse, on aime beaucoup parler de l'altérité de la Chine ou de la pensée orientale que ça désigne en fait la pensée du Moyen-Orient ou de l'Extrême-Orient, on parle toujours de culture autre, etc. Non seulement ça va contre ma conviction intime, mais en plus, ça n'aide pas à comprendre. Alors, ce qu'on a du mal justement à faire comprendre, c'est que en réalité, un Chinois contemporain a pratiquement autant de mal à aborder donc les textes de sa soi-disant propre tradition. qu'un Européen en fait qui aborderait ces mêmes textes à travers des traductions. Hein. C'est-à-dire que en réalité, ce que on ne sait peut-être pas ici, c'est que un Chinois moyen contemporain accède à ces textes très anciens, donc qui datent du 5e siècle avant Jésus-Christ, mettons, à travers en fait une traduction en chinois moderne. Donc voilà, en fait, là, c'est pour ça que je parle aussi, c'est ce que j'ai fait dans ma leçon inaugurale, je parle aussi de comparatisme interne à pratiquer, avant de donner tête baissée dans du comparatisme, disons, entre cultures différentes.
Mais ça, c'est très intéressant parce que, justement, je reviens là d'un séjour à Tel Aviv et on peut faire le même constat pour les élèves qui apprennent la Bible, puisque en Israël, la Bible, ça fait partie quand même du patrimoine identitaire. Mais ceux qui l'apprennent à l'école, pour eux, c'est une langue étrangère. Ils ne comprennent pas l'hébreu biblique. Vous parlez l'hébreu biblique, c'est magnifique, nous, on ne comprend rien. Donc, c'est un peu la même problématique, c'est-à-dire, c'est à la fois, on suggère une continuité, mais en même temps, il y a besoin, justement, parce que la langue moderne est tellement différente de la langue au moment de l'écriture de ces textes, a besoin, en effet, aussi d'une interprétation. Et puis, donc, je pense, là, c'est tout à fait comparable. Et même, je dirais, en français, certaines traductions bibliques, pour un français moyen, ils sont peut-être pas toujours d'une limpidité absolue. Donc là aussi, j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis il y a des termes qui sont véhiculés comme ça, je sais pas, la rédemption, la réincarnation, que sais-je encore. Les gens savent pas forcément ce que ça veut dire. Et puis du coup, le texte même qu'il soit dans la même langue reste un texte obscur. Je pense que là, de nouveau, on a besoin aussi de cet effort d'herméneute. Ouais.
Thomas Römer, dans tout votre travail, vous essayez d'échapper au discours théologique trop bien rodé et vous posez des questions impertinentes, mais l'une d'elles est particulièrement intéressante. Dans votre livre « Dieu obscur », vous vous demandez « Dieu est-il compréhensible ?» Alors évidemment, vous essayez de traduire les difficultés en un langage tout à fait accessible et abordable. Néanmoins, vous vous posez parallèlement la question de la dogmatisation de ce même Dieu. Ma question serait la suivante. Est-ce que la mondialisation, selon vous, augmente les risques de dogmatisation, voire de simplification de cet éternel « bon Dieu » entre guillemets, que vous mettez d'ailleurs entre guillemets?
Tout à fait. Je pense on peut dire oui et non. Ce qu'on observe d'abord, que c'est l'Église qui avait un peu le monopole de l'interprétation, au moins ce qui concerne l'Église catholique, jusqu'au XVIIIe siècle, qu'elle perd ce monopole de plus en plus. De l'autre côté, on observe en effet une sorte d'importance grandissante des Églises fondamentalistes d'inspiration protestante, qui eux aussi, justement, refont sur un plan plus individuel ce qu'avait fait l'Église catholique, à savoir d'imposer une sorte d'interprétation apologétique des textes en essayant de justifier tout et n'importe quoi, tout et son contraire, parce que tout et son contraire aussi dans la Bible. Donc je pense qu'il y a en effet ce danger-là. De l'autre côté, et je pense que c'est aussi peut-être la chance, c'est qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui ne se sont pas justement sous contrôle d'un magistère et qui essaient de comprendre simplement les textes avec lesquels on les a peut-être un peu torturés, massacrés quand ils étaient petits, et ils veulent voir un peu ce qui est là derrière. Et donc, ce livre est né, en effet, de toutes ces interrogations. Mais comment faut-il comprendre ces textes où Dieu demande d'aller tuer les ennemis, où Dieu, en effet, torture le pauvre Job alors que c'est l'homme le plus juste de la terre, etc. Donc, je pense que c'est des questions qui sont tout à fait légitimes et qu'il faut justement aborder, mais non dans une perspective, et ça j'insiste beaucoup, non dans une perspective apologétique liée à telle ou telle obédience croyante. J'essaie de le faire aussi objectivement que possible, si c'est possible.
Cette violence et cette cruauté que l'on trouve dans la Bible, est-ce qu'on la trouve dans la tradition chinoise confucéenne ?
Pas de façon explicite, et justement, c'est ça qui la rend encore plus violente.
Le dieu de la Bible, il va carrément. Quoi.
Oui. C'est plus franc, oui. Oui, alors justement, ça, c'est un des grands problèmes de la rhétorique des textes que j'étudie. C'est précisément qu'on sent que cette rhétorique est faite pour border une très grande violence et pour justement prescrire les contours justement du monde civilisé et contenir justement toutes les forces de violence, d'agressivité qui risquent de se déchaîner, hein. Donc là, en fait, voilà, c'est comme ça que je vous répondrai. En fait, la violence, elle est dans le non-dit, précisément, hein. Et ça, c'est j'ai beaucoup de choses de comptes à régler avec ça. Mais pour revenir sur un mot qu'a employé Thomas Römer tout à l'heure, qui me paraît tout à fait un mot-clé, notamment dans l'entretien que nous avons aujourd'hui, c'est le mot « continuité ». Parce que là, en fait, je pense qu'il y a cette revendication fondamentaliste, hein, de continuité, hein, dans les deux domaines qui nous intéressent. Alors, bien sûr, avec une histoire et des enjeux différents, mais quand même, voilà, la continuité, c'est constructeur justement d'essentialisme. Et c'est ça qui est au cœur, précisément, de tous les fondamentalismes, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que nous défendons quelque chose qui a existé de tout temps, qui est valable en tout temps et en tout lieu. Autrement dit, le gommage justement de la dimension historique. Et je crois que nous pouvons dire que le Collège de France, c'est précisément un endroit où nous défendons précisément cette approche historique et critique. Alors, bien sûr, ça nous vaut d'être terriblement exposé. Thomas Römer a des courriers, le traitant d'Antéchrist, et moi, je suis aussi exposé à des courriers qui pourraient me qualifier à la limite d'anti-chinoise, hein, tout simplement parce que nous essayons justement de comprendre, de faire comprendre et de contextualiser.
Thomas Römer, vous avez parlé de fondamentalisme, mais est-ce qu'il y a équivalence entre les fondamentalismes protestants, juifs orthodoxes, musulmans, selon vous qui travaillez, disons, au milieu des textes, si j'ose dire?
Oui, je pense que souvent, quand on parle de fondamentalisme, on a l'habitude, surtout ici en France, de parler justement du danger islamique. Et là, je reviens d'un mois d'Israël, et ce que j'ai vu à Jérusalem m'inquiète tout autant. C'est-à-dire où finalement, bientôt, ce sera pareil d'aller à Jérusalem ou à Téhéran en vue de l'importance que prennent ces milieux qui veulent imposer justement que le Shabbat, tout soit fermé. Déjà, la compagnie nationale ne vole plus le Shabbat. Donc, je pense ces tendances fondamentales, c'est pas réservé à l'islam, c'est quelque chose qui touche l'ensemble des religions qui se réclament de la Bible, puis l'islam part évidemment intermédiaire du Coran, mais se base aussi sur la tradition biblique. Donc je pense que c'est un danger qui guette, et probablement pas seulement les sociétés qui ont été influencées par la Bible et l'islam, mais sans doute aussi le monde qui se réfère à Confucius.
Oui, tout à fait. Et là, c'est quelque chose, effectivement, qu'on n'a pas l'habitude de percevoir. Alors, disons que dans le contexte chinois, le statut du religieux est différent, bien sûr, enfin, de ce que vient d'évoquer Thomas Römer. Mais actuellement, justement, ce fameux retour de Confucius dont on parlait tout à l'heure, d'abord éveille les passions nationalistes. Et je crois que dans le discours de certains, on entend une certaine forme de fondamentalisme qui peut devenir violent si on l'y encourage. Hein, c'est-à-dire, ce sont des gens qui sont capables d'essayer de réduire leurs adversaires au silence par des moyens plus ou moins coercitifs. Enfin, donc, le fondamentalisme, au fond, c'est le fait de se référer à une certaine idée de la tradition. Et quand vous regardez un petit peu la tradition dont il est question, c'est très souvent, et ça c'est le paradoxe, une tradition récente. Les intégristes catholiques se réfèrent à une tradition qui date du 19e siècle. Les fondamentalistes confucéens se réfèrent là aussi à une certaine idée du confucianisme autoritaire qui a été largement d'ailleurs exploité par les régimes successifs et qui date au mieux de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle.
Oui, mais ce qui se joue, Han Cheng, c'est aussi le rapport à l'Occident, pour le confucianisme orthodoxe,
bien sûr.
Parce que c'est une manière d'intégrer l'Occident tout en intégrant des valeurs soi-disant éternelles de la Chine.
Bien sûr, mais fondamentalisme va avec essentialisme, et donc, justement, c'est la raison principale pour laquelle je réagis à cette thématique de l'altérité de la Chine.
Mais je crois que c'est très Thomas important ce que vous dites là, parce que, en effet, les fondamentalistes, tout en se réclamant du texte fondateur, ils en fait se basent sur des traditions qui sont beaucoup plus récentes et qui essaient justement d'harmoniser les textes alors que les textes eux-mêmes s'opposent à une lecture fondamentaliste. Je crois que c'est ça ce qui est important à faire comprendre.
Et est-ce qu'on peut revenir sur la question de la violence ? Parce que si elle est commune à vos deux traditions, la violence primordiale, vous dites souvent, Thomas Römer, que le dieu finalement qui vous intéresse, mais qui est un dieu en tension, contradictoire, cruel, violent, est un dieu qui vient pour surprendre. Est-ce qu'on pourrait étendre cette définition d'un dieu qui vient pour surprendre aux textes sacrés dans notre modernité, disons aujourd'hui ? Est-ce que les textes sacrés ont justement une valeur néanmoins pérenne, tout en étant historique, tout en étant voué évidemment à la critique ? Est-ce qu'ils ne sont pas là encore et toujours pour nous surprendre ?
Oui, je pense que oui, ça c'est ma conviction profonde. Pourquoi ces textes intéressent encore aujourd'hui ? C'est parce que je pense qu'ils ont quand même un potentiel à mettre en question un certain nombre de certitudes, mais peut-être aussi un certain nombre d'idéologies bien pensantes, du politiquement correct ou que sais-je encore. Donc je pense en effet que ces textes, c'est aussi peut-être l'intérêt de ce texte qu'ils véhiculent des choses qu'il faut peut-être redécouvrir et surtout aussi. Aussi, je pense, je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois que ça nous concerne tous les deux, ce n'est pas des textes qui ont en soi un système bien construit. C'est toutes sortes de réflexions, de systèmes de pensée, mais qui ne sont pas unifiés, justement, qui vivent aussi des tensions qui leur sont inhérentes. Et puis, je pense, l'intérêt, c'est aussi de voir comment un corpus littéraire peut se construire qui, en fait, est quelque part contradictoire. Et comment, à partir d'une contradiction, on peut quand même trouver une sorte de discours identitaire. Et ça, je pense, si on fait comprendre ça, si on arrive à faire comprendre ça, c'est le meilleur outil contre les fondamentalismes. Et c'est pour cela, je pense, c'est très important d'insister un peu là-dessus. Je pense peut-être il y a là aussi des choses qu'on peut avoir en commun.
Han Cheng.
Oui, vous parliez tout à l'heure de ce livre à succès de Madame Yutan, constitue sa lecture des entretiens de Confucius et dont on sait bien qu'il s'est vendu à des millions d'exemplaires en Chine. Alors évidemment, en Chine, ce n'est pas tellement un exploit en soi, vu
début des années 2000, non ?
Oui, c'est assez récent. Alors bien sûr, cette dame qui, en réalité, n'est ni experte des textes, ni historienne, ni quoi que ce soit de ce genre, mais plutôt experte en communication et en technique marketing, a bien compris que là, il y avait un filon donc, à exploiter. Et le filon qu'elle exploite, c'est une lecture extrêmement comment dire, consensuelle et même hédonisante en fait, des entretiens, où là, justement, et c'est ça qui me rend absolument furieuse, où elle projette donc, l'image d'un Confucius qui serait en fait un porte-parole du discours officiel actuel sur l'harmonie. Vous savez que c'est le slogan de l'équipe dirigeante actuelle en Chine. Oui, oui, c'est ça, la société d'harmonie socialiste. Et donc, le livre de Madame Yudan va tout à fait dans ce sens, d'où son succès, je pense, qui a été en partie d'ailleurs financé par les autorités. Moi, je montre ce que les textes ont véritablement à dire. Et là, quand on les lit vraiment, on s'aperçoit que dans la tradition confucéenne, on est loin justement d'un discours sur l'harmonie. Au contraire, en fait, dans la tradition confucéenne, être un véritable lettré confucéen, c'est être en résistance. Être dans la protestation contre justement un pouvoir impérial certes écrasant, hein, mais où là justement cette rhétorique de la résistance justement à la violence du pouvoir est d'autant plus indispensable et d'autant plus vitale. Donc, en effet, je crois que toutes les cultures du monde ont eu à faire face justement à ce problème de la violence, parce qu'il est inscrit dans la nature humaine, tout simplement, et dans les sociétés humaines, surtout. C'est comme ça qu'elles se construisent, d'ailleurs, hein, dans la violence. Mais vous avez là, quand même, en fait, des textes qui sont, la plupart du temps, des textes de résistance. Et ça, justement, ça n'apparaît absolument pas, en fait, dans les certaines lectures contemporaines qu'on nous propose.
Alors, texte de résistance sur le plan politique, mais les textes sacrés qui nous renvoient à cette violence primordiale que nous venons d'évoquer, nous renvoient aussi à la question de la transgression. Alors bon, dans le cas de la tradition biblique, où Dieu pousse à la transgression, en un certain sens, c'est-à-dire il permet aux hommes d'être libres et responsables, de quitter gentiment le jardin d'Éden, mais c'est vrai qu'il pousse un peu, hein, il pousse, et vas-y, croque le fruit défendu. Alors est-ce que ce rapport à la transgression, là encore, parce que nous sommes dans Croisement, une émission d'été, mais néanmoins qui essaye de faire se rencontrer des traditions différentes pour voir en quoi elles se rejoignent ou pas. Est-ce que sur cette question de la transgression, vous auriez des points de rencontre ou des points de divergence profonds ?
Han Cheng vient de dire l'importance de justement la résistance. Quand on regarde le texte biblique, là aussi, de nouveau, il faut dire que ce texte fondateur qui est connu par tout le monde, l'histoire de Ève et la pomme, c'est pas du tout une histoire de péché originel comme l'Église n'a cessé de le répéter. C'est plutôt justement une réflexion sur la nécessité même de la transgression qui est liée à l'affirmation de la liberté humaine. Et je crois, ça c'est très important, que le début même de cette relation telle que la Bible le dresse entre l'humanité et Dieu est liée ou est fondée dans un acte de transgression. Et je pense en effet que liberté et possibilité aussi de désobéissance vont ensemble, et je crois qu'il y a beaucoup de textes bibliques qui l'affirment. Alors je ne sais pas comment vous verrez ça au niveau de Confucius.
Han Cheng.
Oui, dans le cas de la Chine et notamment de la Chine impériale, je précise, parce que là aussi, la Chine a connu autre chose qu'un régime impérial. Mais disons que le régime impérial, on le date en général du règne du premier empereur, très logiquement, qui a donc unifié l'espace qui devait devenir la Chine en 221 avant Jésus-Christ. Donc, dans le cas de la Chine impériale, le terme de transgression pose problème dans la mesure où, quand on dit transgression, on évoque en fait le tracé d'une frontière à dépasser ou ne pas dépasser. Or là, en fait, la Chine impériale s'est toujours appliquée justement à se présenter comme un centre irradiant. Qui irradie de la civilisation. Autrement dit, nous avons quelque chose, une vision extrêmement centrée, la Chine étant une sorte de centre irradiant. Bon. Et donc, dans cette représentation, il est très difficile justement d'imaginer un contour. Imaginer quelque chose justement qui serait à dépasser ou à transgresser. Donc là, on a effectivement une certaine conception, une certaine auto-représentation justement de la Chine impériale comme centre de diffusion civilisatrice qui rend justement cette transgression très difficile à concevoir.
Et en ce qui concerne les rôles du féminin et du masculin, Dieu sait si des choses ont été écrites là-dessus, en tout cas en ce qui concerne la tradition biblique, mais aussi la tradition chinoise. Ça serait quoi aussi vos points de convergence et de différence ?
Disons que il y a une.
Ah, si ce n'est que Dieu le Père d'un côté et Confucius de l'autre, mais bon.
Moïse. C'est-à-dire qu'en termes chinois, on préférait sans doute s'exprimer en termes de yin et yang. Yin féminin, yang masculin. Donc effectivement, on pourrait dire, pour être vraiment très sommaire, que la tradition confucéenne est yang. Certains pourraient dire éventuellement macho. Mais on n'a pas de dieu sous la main, justement, pour lui mettre tout sur le dos, si j'ose dire. Donc là, en fait, ça, on a pas cette commodité.
Oui. Thomas Römer.
Dieu de biblique, il est surtout mâle, ça c'est sûr, parce que ces textes ont été écrits par des hommes, il n'y a pas de doute là-dessus, même si parfois on essaie de faire intervenir des femmes, je ne le pense pas. De l'autre côté, on voit quand même qu'au moment où on s'avance vers une idée monothéiste, puisqu'avant le dieu biblique avait quand même aussi sa parèdre à côté de lui, mais au moment où on arrive vers le monothéisme, on voit quand même qu'il y a des textes où ce même dieu est quand même comparé aussi à une mère qui prend soin de ses enfants, ou qui met au monde en fait son peuple. Donc il y a une certaine tentative parfois d'intégrer des aspects plus féminins, mais il faut quand même le dire que le dieu biblique reste mâle, et puis l'Église catholique le considère toujours puisqu'elle empêche les femmes de devenir prêtres. Donc c'est quand même là, on est là quand même dans une certaine continuité, je dirais quand même, qu'on peut mettre en question de temps à autre. Mais au niveau des textes fondateurs, il y a quand même cette vision un peu machiste, comme disait Han Cheng.
Alors, imaginons le pire, nous sommes l'été, quelques auditeurs perdus dans la nature, mais néanmoins auditeurs, n'auraient jamais rien lu de la tradition confucéenne, ni rien lu de la tradition biblique. Qu'est-ce qu'il faut lire en premier, Han Cheng ?
Quand on est sur une plage au bord de la mer, peut-être le plus commode, c'est encore les entretiens de Confucius, parce que c'est court, ça se présente en apophthegme, enfin, c'est-à-dire donc en fragments, donc ça tient en un livre de poche, c'est très commode.
Collection Sagesse aux éditions du Seuil. Et vous, Thomas Römer?
Bah, évidemment, il faut lire la Bible, mais comme elle est assez épaisse...
Pas en Pléiade sur la plage.
Non, mais il y a des éditions de poche. Il y a la traduction œcuménique de la Bible qui est accessible en livre de poche. Et puis, si on ne veut pas tout lire, le livre La Genèse, le premier qui quand même pose toutes les questions des origines, la question de la violence, la question homme-femme, la question aussi justement d'Abraham, qui n'est pas justement l'ancêtre d'un peuple unique, mais qui est l'ancêtre de plein de monde. Donc, et puis, c'est des histoires qui sont quand même pas si intéressantes. Donc je pense livre de la jeunesse, un bon début.
Eh bien, merci à tous les deux. Merci beaucoup Han Cheng.
Merci
beaucoup Thomas Römer pour ces croisements d'été. C'est C'était Croisement, une émission de Philippe Petit, réalisation Philippe Baudouin, à la technique Georges Thaud.